Bon, on va commencer avec un petit Lechaim Lilu Nishmat. Raphaël, Chaim Rachamim, Ben Myriam Beshalom. Aujourd'hui, c'est Saïloula, le même jour que Saïloula d'Admo Azakel. On va faire des shiur pour l'élévation de son âme. Donc, comme on l'a dit, le shiur a déjà repris au local, comme d'habitude. On va le faire maintenant par téléphone aussi. La sikha de cette semaine que nous allons étudier, c'est dans le côté sikhot chelek lamed alef, c'est la troisième sikha. Elle a été dite par le rabbi en deux parties, Shabbat Shemot Tafshim Mem Zayin, 1987, et Ofarbein de Yutet Kislev, Tafshim Chai, 1958 ou 57. Cette sikha, elle est dans Chelek Lamed Alef, en côté sikhot, elle en hébreu. Et elle reprend un pasouk de la parasha de cette semaine, dans lequel il y a un rashi. Ce rashi est cité dans le Midrash. On a déjà vu ça souvent, lorsque rashi reprend quelque chose du Midrash, c'est toujours important d'aller regarder est-ce qu'il y a des différences entre rashi et le Midrash. Et en regardant bien les différences, ça nous permet de mieux comprendre quel message Rashi veut faire passer. La deuxième chose, c'est que des fois, il y a un Rashi qui explique un mot du pasouk. Et des fois, on ne voit pas exactement pourquoi il a besoin de dire toutes ces choses-là. Le pasouk n'est pas si étonnant. Il n'y a pas tellement de questions sur ce pasouk. Donc on essaie à travers la réponse de Rashi comprendre quelle était la question que Rashi veut enlever. Il y a des fois où on a un Rashi qui dit quelque chose et en vérité Rashi vient répondre à des problèmes non pas de ce pasouk-là mais plutôt des problèmes des psukim d'avant. Donc des fois, on a un pasouk, on regarde le mot, on regarde Rashi, on voit pas exactement quelle est la réponse, on voit pas pourquoi il dit tellement de choses. Mais en fait, il faut ressortir du verset, il faut regarder toute la paracha. Des fois même, il faut regarder les choses d'avant et comprendre qu'il y a un problème. Et de voir exactement pourquoi Rashi l'a dit tout ça. Et en disant tout ça, il répond à ce problème. Voilà une petite introduction avant de commencer la sikha. Donc dans cette sikha, on va s'arrêter sur un pasouk, simple, apparemment, avec un rashi qui ramène un midrash, avec des questions sur ce midrash, avec des questions sur le pasouk, et elles vont répondre à des questions générales de la paracha. À la fin de la sikha, on va comprendre que ce pasouk est un élément très important sur tout le message de la sortie d'Égypte. Surtout le message de la mission de Moshe Rabbeinu, de la mission de Matan Torah, et comment est-ce que c'est une étape en avant vers l'avenue de Mashiach. Quoi il s'agit? Il y a un passage dans la parasha cette semaine qui raconte, avant de commencer la sikha, on va faire un petit résumé, c'est le chita d'hier, dans lequel on voit toute une histoire que lorsque Moshe Rabbeinu était berger du troupeau de son beau-père Yitro. À un moment, il s'est retrouvé au mont Sinaï, comme ça c'est marqué. Il a été, il s'est retrouvé là-bas. Là, il y avait cette histoire de la révélation buisson ardent. Rashi dit que Dieu lui dit dans le verset, ça fait déjà depuis hier, avant-hier, à chaque fois il y a le mot gam. Ça veut dire que ça faisait en tout déjà 6 jours. Que Dieu a insisté auprès de Moshe Rabbeinu d'aller libérer les Bnei Israël. Et on voit apparemment que Moshe Rabbeinu, difficile de dire, il veut pas, mais il a l'air de donner des arguments pour ne pas aller. Le 7e jour, si on peut dire, Dieu se met en colère. En tout cas, c'est marqué comme ça dans le Chumash, il y a une colère. Et à partir de là, il y va. Donc, il faut regarder c'est quoi les psukim, c'est quoi les arguments, c'est quoi les problèmes. Mais il a fini par aller. Lorsqu'il y va, il prend avec lui sa femme et ses enfants, qui étaient à bas âge, puisqu'il y avait un qui venait de naître. On a l'histoire de la Milan, n'est-ce pas? Et c'est marqué dans le verset que il met sa femme et ses deux enfants sur l'âne. Il voyage. Pourquoi un âne? Bon, ça peut être quoi? Ça peut être un chameau. Ça peut être un cheval, quelque chose de plus grand, de plus fort. Un âne. C'est un âne. À partir de là, on a un Rashi qu'on va étudier. Quelles sont les idées qu'on va retrouver dans la Sikha que Moshe Rabbeinu nous dit pourquoi il ne veut pas aller? Il y en a plusieurs. On va tous les voir dans la Sikha. À un moment, il va dire, j'ai du mal à parler. Ça, c'est marqué dans le Chumash. À un moment, il va dire, Shlach na beyad tishlach. Envoie, s'il te plaît, par quelqu'un d'autre. C'est qui ce quelqu'un d'autre? Aaron. Rashi raconte qu'il y avait des prophéties. Aaron était prophète. En Égypte, il a eu des révélations, il a eu des prophéties. Il m'envoie Aaron. On voit là-bas dans Rashi qu'il préfère que ce soit Aaron plus grand. On voit l'idée qu'il a peur qu'Aaron sera jaloux. Lui, il est plus jeune. On voit l'idée qu'il dit « Shlach na biati shlach ». Mais de toute façon, à la fin, c'est pas moi qui vais les libérer. Il a une vision qu'à la fin, c'est Mashiach qui va les libérer. Donc, il dit que ce soit Mashiach qui vienne les libérer maintenant. Toutes ces choses-là font partie des arguments que Moshe Rabbeinu y donne. Pour ça aussi, on va étudier une grande partie de ça dans la Sikha. En tout cas, on va commencer d'abord par l'histoire de l'âne. Après, on va venir, on va voir comment l'histoire de l'âne répond aux arguments. Comment sa Sikha? Elle est dans Chelek Lamed Aleph, la Sikha Gimel sur Shmot. Et dans le Kovet de cette semaine, c'est la page 4. Et comme on a déjà dit dans le passé, vu le temps qu'on a, on pourra pas faire tous les textes, tout sur texte. Certains passages, on fera oralement. Aleph. Le kach Moshe et ishto v'et banav, il a pris Moshe, sa femme et ses enfants, v'yakiv et miliza, assis, chevauché, alachamor sur un âne. Al hachamor sur l'âne. Entre parenthèses, l'âne connu, le chamor. Eshvat Mitzrayim, il est retourné en Égypte. Paikach Moshe et Matel, Kimbiado, il a pris avec lui le bâton de Dieu, bâton divin. Pesh Rashi, Rashi explique al hachamor sur le chamor. Rashi, il dit, pourquoi on dit ha-chamor, le chamor? Chamor amiyuchat, c'est l'âne particulier. Hu ha-chamor, c'est le fameux âne. Shechavash Avraham, la kedat Yitzhak, Avraham a attaché et a préparé pour porter les ustensiles ou porter les affaires en allant à la kedat Yitzhak. C'est un fameux pasuk. Yachavosh Avraham, chamoro. Avraham, lui-même, a attaché l'âne. Et c'est le même âne, Chatid Melech HaMashiach, que Mashiach, l'Igalot Allah, va se révéler sur lui, chez Nema, comme il est dit dans le Passouk, dans Zecharia, Ani, il est un pauvre, Verochem Alachamor, qui chevauche sur un âne. On voit clairement que lorsque Mashiach viendra, il chevauchera sur un âne. Donc c'est l'âne que Avraham Avinu a utilisé, et c'est le même âne qu'on utilisera lorsque Mashiach viendra. Passage suivant. De Pashtut, apparemment, Kavanat Rashi, Hu Lever, Rashi est venu expliquer pourquoi ça marque Hachamor Behea Idia avec le He connu. Zemukhar, ça veut dire Shakavana Hamor Amiyuchad. On parle d'un Hamor particulier. Donc Rashi explique, c'est le Hamor Shechava Shavram. Voilà, ça c'est Pshat. Donc, Pshat de Rashi, il est venu répondre à quelle question? Pourquoi c'est marqué Al Hachamo? Pourquoi c'est marqué Hachamo? Valiesh Lavin. Mais il y a ici déjà deux questions. Il y en aura d'autres par la suite, mais ici pour l'instant il pose deux questions. Aleph. Faut expliquer la particularité de cette âne. Ayam aspik le chor alomar. Ça suffit de dire. Wachamor shechavash Avram. C'est l'âne qu'Avram a utilisé. Mais tout l'autre, pas plus. Mais glalze, c'est une raison suffisante qu'il ait un chamor miyuchat, qu'il soit un âne particulier. Mawa tsorech, pourquoi il a ajouté et dire, c'est l'âne qu'Avraham Avinu a pris pour la Akeda de Yitzhak. C'est vrai que c'était pour la Akeda de Yitzhak. Et si c'était pas pour la Akeda de Yitzhak? Un âne qu'Avraham a utilisé. Un âne important, parce qu'Avraham l'a utilisé. Et c'est marqué dans la Torah, vers Achavosh, Avraham, maître mort. Quand est-ce que ça s'est passé? Pour la Akeda de Yitzhak. C'est si important de dire ici, maintenant, dans Rashi, que ça a été pour la Keda d'Yitzhak. Dans la parenthèse, il dit, de toutes les façons, il n'y a pas une autre occasion où on voit qu'Abraham, il a pris un âne. Donc, si quelqu'un, il connaît Chumash, c'est très bien que c'était à la Keda d'Yitzhak. Pas d'autre solution. Pourquoi Rashi a eu besoin de le dire? S'il le dit, c'est qu'il y a une raison. Continue. Madame, deuxième question. On vient, on dit que c'est l'âne qui Mashiach va se révéler sur lui. Davar niflav nes gadol biyoter. C'est quelque chose de merveilleux et un grand miracle. Shachamo yechay vekayam, que l'âne va vivre alfei shanim, des milliers d'années. Mais frère, surtout, je colle toutes ces informations et non au guerre ne nous concerne pas l'Avanat Akatou pour comprendre le verset. Alors, si vraiment Rashi est venu uniquement expliquer la particularité d'un âne, suffit de dire un mot. L'âne qu'Avraham Avinu a utilisé, c'est tout. Ça répond à la question, pourquoi tu dis Hachamo? Puisque Rachid a ajouté d'autres choses. Premièrement, il a ajouté, c'était la Keda d'Yitzhak. C'est important. Pourquoi? Après, il a ajouté, et c'est l'âne que Moshiach va utiliser. C'est vrai, le Midrash le dit. Mais c'est quand même étonnant de mettre dans un Rachid que c'est l'âne qui va être utilisé lorsque Moshiach viendra et que l'âne va vivre des milliers d'années. Déjà sur la question, est-ce que c'est le même âne vraiment qui a vécu depuis Avraham Avinu jusqu'à maintenant, c'est une question. Rabbi ramène que Pshat, c'est sûr que c'était ça. Il ramène quand même au nom d'autres Mefarshim. Est-ce que c'est le message de l'âne? C'est peut-être le même, si on peut dire, la même Neshama de l'âne. Mais c'est pas le même âne Mamash. Il n'a pas vécu 500 ans, un âne. Mais dis, tu regardes Rashi. Oui, c'est le même âne. Et un âne qui va vivre des milliers d'années. Deuxième question en haut de la page. Le Shema Matira Shema Katuv Gam Tevat Al Fiana Mevarak Tevat Achamo. Le verset dit sur l'âne. Oui, bien sûr, il les a mis sur l'âne. Et Rashi reprend, il explique le mot Al Achamo. Il a expliqué le mot Al ou il a expliqué le mot Achamo? Il a expliqué le mot Achamo. Il a dit c'est quoi la particularité de cet âne. Mais il n'a jamais expliqué ce que c'est le mot Al. Pourquoi il a fait? S'il a mis le moal, c'est que dedans aussi il y a un message. Donc on cherche ici à comprendre trois messages. Pourquoi on nous parle de la Keda du Yitzhak? Pourquoi on nous dit que c'est l'âne sur lequel va s'asseoir et se révéler Moshiach? Et pourquoi il nous parle du mot al? Continue. Bête. Au niveau du pshat, on peut dire que Rashi nous a répondu en fait une autre question, pas uniquement la particularité. Il nous répond à une question, pourquoi un âne n'est pas un cheval? Et pourquoi pas? C'est parce que sur un long trajet, on prend un chameau, on prend un animal plus grand, plus important, et à l'époque, les gens qui faisaient un long trajet ne montaient pas sur un âne c'est petit, c'est difficile à voyager avec, tu montes sur un chameau, tu t'installes correctement. Donc Rashi est venu répondre à un autre problème. Pourquoi il est parti chercher un âne? Il y a d'abord la première question, quelle est la particularité de l'âne? Ça vient de dire. Abbé dit non, c'est plus profond que ça. Il y a une autre question, Pshat. La Torah vient nous dire, Moshe Rabbeinu, il a pris sa femme et ses enfants, trois personnes, il les met sur un seul âne. Prends deux ânes, prends un chameau. C'est vrai que les enfants sont petits, il faut que la mère les tienne. Prends un chameau. Est-ce que c'est un problème, ça? Est-ce que c'est une question, ça? Amir Ahmed, on va le faire tout de suite sur texte, une histoire dans la Gemara. Il y avait un roi qui a pris 70 kenim, 70 chachamim, il a mis dans 70 pièces fermées, il leur a demandé de traduire toute la Torah pour voir si tout le monde traduit de la même manière. Et ils ont tous traduit de la même manière, et tous, ils ont eu une prophétie de faire quelques modifications. Pourquoi? Parce que ce sont des choses qui passent pas. Et une des modifications, c'est ce verset. Qu'est-ce qu'ils ont modifié? Ils n'ont pas traduit que c'était un âne. Ils ont traduit un porteur d'homme. Et tu dis porteur d'homme, ça peut être un âne, ça peut être un chameau, ça peut être un cheval. Pourquoi ils ont modifié? Parce que ça passe pas. Mon cher Rabbeinu, pour faire un long trajet, prends pas un petit âne pour mettre dessus sa famille. Prends un chameau. Alors, ça veut dire que c'est un vrai problème, chameau. Et c'est quoi la réponse au chameau? Rien à prendre. C'est le chameau d'Abraham Avinu. C'est le chameau sur lequel mon cher va monter. Donc, Rashi, en donnant son commentaire, il a répondu à ce problème. C'est un vrai problème. Pourquoi il a pris un chameau et pas un... Pourquoi il a pris, je veux dire, un âne, je me trompe. C'est pas un âne. Pourquoi il a pris l'âne? Pourquoi il a pris l'âne de Abraham Avinu? Pourquoi il a pris un âne? Il aurait dû prendre un chameau. Pourquoi il a pris un âne? Parce que c'était l'âne d'Abraham Avinu. Donc en mettant le mot et l'histoire d'un chamor, que c'est le chamor d'Abraham Avinu, c'est le chamor de Mashiach, c'est pour répondre à la question que tout le monde peut se poser, de la même manière que ce fameux roi pourrait se poser. Pourquoi on prend un âne et on ne prend pas un grand chameau? Jusqu'au point que les 70, ils sont partis, ils ont modifié la traduction. Rashi, en nous donnant cette information, il a répondu à cette question. Ça veut dire que Rashi répond à combien de questions? À deux questions. D'abord, c'est quoi la particularité de l'âne? C'est l'âne d'Abraham. Ensuite, il a répondu à un deuxième problème. Pourquoi on prend un âne et pas un grand chameau? La réponse, elle est parce qu'il a eu le sroud d'avoir devant les mains l'âne d'Abraham Avinu et l'âne de Mashiach.
C'est l'âne de Bilam aussi?
Si, c'est l'âne de Bilam. Chez Bilam, c'était une ânesse. C'est le fils de l'ânesse de Bilam. On verra ça plus tard dans le Midrash. Exactement. On parlera de ça. Parce que Rashi lui a pas donné tout son yichus, mais le Midrash lui a donné tout son yichus. Otbet, dans les mots. Le Gemara Ita, il y a une Gemara qui raconte, je sais pas si vous avez ce verset, c'est un des versets chez Shinu qu'ils ont changé, 72 Kenim, que chez Tirgmon, lorsqu'ils ont traduit la Torah pour Talmai Amelech. Katou, ils ont écrit, Vaya Kivem, et il les a installés, chevauchés, al nosé bne Adam, sur des porteurs de personnes. Pej Rashi, Mashma Gamal, ça laisse entendre un grand chameau. Shelo Yoma, pour ne pas que le roi y dise, Moshe Raprem, Moshe votre maître, lo ayalo, il n'avait pas sous gamal, il n'avait pas un chameau, il n'avait pas un cheval. Et aussi le Evenezra, il dit, un autre problème, pourquoi on met tout le monde sur un seul âne? On ne peut pas avoir un deuxième âne. Passage suivant. On peut dire, donc là, je suis venu répondre à plein de problèmes. D'abord, il a répondu, le premier problème, c'est quoi? Hachamor, le hé. Quoi, la particularité de l'âne? Et après, il a répondu, pourquoi un âne et non pas un grand chameau? Page suivante, la page 5. Pour le kivam, les apami, al, sous ce gamal, sur un cheval ou un chameau, Ou bien, comme le Ibn Ezra a soulevé, Kamachamorim. Si déjà on prend des ânes, on en prend plusieurs. Chemefarj Rashi. Voilà pourquoi Rashi il a dit, Sheloa Chamora Gil, c'était pas un simple âne. Chamor Mikhad était particulier. Ou Chamor Shechavash Avram, c'est celui qu'Avram avait utilisé. Mais qui va chez Ein Sheken, Ein Pele, c'est pas étonnant qu'un âne pareil pourrait porter et faciliter le trajet. Ça veut dire aussi, ça répond. Il n'est pas juste parti chercher parce que sur le plan spirituel, c'est un âne particulier. C'est un âne avec une force spéciale. Donc c'est un âne qui peut prendre plusieurs personnes et qui fait un trajet normal. Et c'est pour ça que ça a répondu à toutes ces questions. Donc, Kochola 7, Massa Kaved, Sheinu Ragil Ubetava. Il est en mesure, cet âne, de porter une charge lourde et faire un trajet qui normalement il n'arrive pas à faire. Quelque part, c'est comme si on va dire l'âne avait les mêmes fonctions et les mêmes forces que le chameau.
Mais pourquoi
c'est la suite de la question. Passage suivant après la parenthèse. Om namagu fatamaba, et le but de cette sikha c'est de comprendre, mais ça même il faut comprendre. Pourquoi Moshe Rabbeinu est parti chercher l'âne d'Avraham Avinu? Pourquoi ça s'est pas passé autrement, qu'il n'a pas eu plusieurs ânes, et pourquoi est-ce que c'était pas un chameau? En d'autres mots, qu'est-ce que j'ai besoin d'aller chercher l'âne d'Avraham Avinu? Parce qu'il est fort, et parce qu'il a une espèce de force physique anormale, il pourrait porter toute cette famille. Pourquoi il a eu besoin de passer par là? Pourquoi on a besoin de le chercher? Pourquoi Dieu lui a mis ça sur le chemin? Pourquoi ça s'est pas passé autrement? Tout simplement, on prend un chameau et on y va. Dans la note 12, le rabbi dit comme ça. Il dit, si encore la Torah raconte que c'est Moshe en personne qui monte sur l'âne, j'aurais pu encore dire qu'il y a une espèce de suite, les événements d'Abraham, les événements de Moshe, il y a un message, on va libérer les Bnei Israël, on a besoin de cette force pour libérer. Encore, ça serait assez évident. Mais c'est pas lui qui monte. Il a mis sa famille. Donc tout ça reste étonnant. Pourquoi il va utiliser juste pour transporter sa famille, surtout qu'à la fin ils sont encore retournés chez Yitro, pourquoi est-ce qu'il va utiliser pour transporter sa famille là dans Avraham Avinu? C'est évident qu'il y a un secret dans tout ça. On résume l'autre, Aleph et Bet. Rashi dit que c'est l'âne d'Avraham, l'âne de Moshiach. Première question. Il a donc répondu pourquoi c'est marqué l'âne connu, le hé. Deuxième question que nous avons, pourquoi il met le mot al dans le titre Rashi? Et surtout, il a répondu à d'autres questions. Pourquoi il a pris un âne, il n'a pas pris un grand chameau? Mais tout ça, on reste quand même avec une question générale. Pourquoi ça s'est passé comme ça? Pourquoi la Torah nous le raconte? C'est quoi cette idée qu'il a pris cet âne? Et c'est quoi l'idée que la Torah nous le dit dans le Chumash? On va continuer avec encore une question dans le Hot Gimel. Le Hot Gimel, on va le faire oralement. De l'Hot Gimel, on va faire juste les quatre premières lignes. Gam Tzarbi, encore une question. Drash, c'est ce commentaire de Rashi, ce Midrash, me koro, à la source, il vient du Pirkei de Rav Eliezer. Shamakdim, là-bas, il a ajouté encore une qualité pour cet âne, ou à Hamor, il est le Hamor, Ben Ha'aton, le fils de l'ânesse, Shinivret, qui a été créé Ben Hashmashot, parce que Pirkei Avot, l'ânesse de Bilam, qui a eu la force de parler, elle a été créée Ben Hashmashot, et c'est elle qui a eu cet enfant, cet âne qui va servir pour Avraham, pour Moshe et pour Moshiach. Ça veut dire que le Midrash, il donne encore des qualités. Rashi, on voit qu'il n'a pas cherché à faire toute la liste des qualités. Si encore il faisait toute la liste, comme c'est marqué dans le Midrash, j'aurais dit que tout ça s'inscrit dans Hachamor, le Hachamor connu. Tu veux connaître toutes les qualités de ce Hachamor? Il y en a trois. Rashi n'amène pas trois. Il amène combien? Deux. Ça veut dire qu'il n'est pas venu nous dire les qualités du Hachamor. C'est plus profond que ça. Si vous voulez dire les qualités du Hachamor, il aurait donné les trois. Il a choisi deux. C'est qu'il y a un message dans les deux. Nous allons passer au Hot Dalet dans le Kovet. C'est la page 6. Et Shlomo Abbé Obazé. Voici l'explication à tout ça. Une petite introduction avant de commencer l'hôte d'Alet, c'est comme on a dit au début de la Sikha. Il y a des fois un rachis pour le comprendre. Il faut étudier le verset lui-même. Il y a des fois un rachis pour le comprendre. Il faut revoir un peu toute la paracha. Ce verset qui nous annonce qu'il a pris un âne particulier, l'âne d'Abraham et l'âne de Moshiach, s'en est servi pour aller en Égypte, n'est pas venu nous raconter un grand miracle qu'il a utilisé, il a eu le sroute d'utiliser l'âne d'Abraham. C'est beaucoup plus profond que ça. Et on va voir ici deux parties. La première partie de la Sikha, c'est qu'il va dire qu'il y a eu un code dans ce rashi dans lequel on lui a répondu à deux questions. Dans les questions, on a dit tout à l'heure que Moshe Rabbeinu, dès qu'il est venu, il donnait des arguments. Il ne veut pas aller à cause d'Aaron, il ne veut pas aller parce qu'il dit que c'est Moshe qui a qu'à aller. Il hésite d'aller. Il y a toute une discussion qui a duré, comme on a dit tout à l'heure, 7 jours jusqu'à ce que Moshe Rabbeinu a été. Dans ces 16 jours-là, il y avait beaucoup de choses qui ont été dites. À la fin, il voit. À la fin, il voyage. Est-ce qu'il a été répondu sur ces questions ou pas? Dans le Chumash, on va voir que certaines réponses, on lui a données et certains, on ne lui a pas répondu. Si on ne lui répond pas, comment ça se fait qu'il a changé d'avis, il a été? L'âne qu'il a pris a été une réponse à plusieurs choses. Donc l'histoire de l'âne et les deux points dans Rashi, on verra qu'il y a 3 points dans Rashi, sont tous des réponses et des codes et des messages aux différents problèmes que Moshe Rabbeinu avait avant d'aller. Donc si tu prends juste la question, c'est quoi l'âne? L'âne, il a ses qualités. Si tu veux savoir pourquoi on a dit l'âne, il est fort, il peut porter une famille, même si normalement c'est sur un chameau. Mais le Rashi et tous les détails de Rashi sont là pour nous apprendre que ça répond à une série de questions que Moshe Rabbeinu avait. Donc on va revoir maintenant la Sikha dans le Hot Dalet et le Hot He et le Hot Vav. Dalet, He, Vav, ces 3 autres là, c'est ce que le Rebbe va expliquer. Il va expliquer que Moshe Rabbeinu est venu avec plein de questions. Et il a eu des réponses dans le Chumash. Certaines réponses, il a eu à travers le message de cette âne. Et surtout comme ils sont lus dans Rashi. Donc on n'est pas là pour donner la liste des qualités de l'âne. On est là pour montrer comment dans ce voyage, il y a une réponse à beaucoup de questions. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut étudier les questions. Il faut voir quels étaient les soucis que Moshe Rabbeinu avait. Et ça, on va les étudier, certains passages dans l'autre. Dalet, He, Eva, dans les mots. Et je m'en vais au Pepirusho kan, avec ce rashi, barash ilva aito shebe pasuk shilochoren omuvan. La question que rashi avait n'était pas le ha chamor, le he, ou bien le fait que c'est un chamor. C'est pas que ça les questions, parce que pour l'instant on a répondu le he, il est particulier, oui. On a dit un âne et pas un chameau, c'est répondu aussi. La question elle est beaucoup plus large. Pourquoi la Torah a besoin de nous apprendre le moyen du transport? Suffit de dire qu'il a été en Égypte. Quelqu'un qui lit Chumash, il voit un passou qui ne comprend pas, qu'est-ce que ce passou qui est si important? On a vu que tous les voyages que chacun il a fait d'un endroit à l'autre, on nous dit sur quel animal il est monté, s'il a pris un chameau, s'il a voyagé. Il y avait un petit peu avec Yaakov et ses enfants, etc. Mais comme ça, devant un problème si important d'aller libérer les Bnei Israël, il y a un verset qui dit « Vayak tivem al hachamor » Il les a mis sur un âne. Qui? Sa femme, ses enfants. C'est si important ça. Pardon? Oui, mais c'est là on est juste sur un petit voyage. Ça veut dire que ce verset apprend beaucoup de choses. Pour comprendre ça, il faut remonter un peu avant dans l'histoire. Chaque Levita, il y avait une discussion entre Moshe et Akadosh Baruch, Kodosh et Kuto, l'école d'Israël, pour les libérer les Juifs. Akadosh Baruch, tu vas au Dieu, lui dit, le Kha, vas-y, Veshra, je t'envoie par où, votre état, même Israël sort, mon peuple d'Égypte. Moshe s'y rêve, Moshe, il a refusé, le Kabbalat Ashlichut. Et si, Mazan Yam, Shebem, à la fin des 7 jours, comme on a dit, ça a duré 7 jours, Rashi nous dit, aïe, Akadosh Baruch, me fasse être Moshe, Bisne, l'élève, comme je Kuto, Dieu essayait d'influencer Moshe, d'accepter pour aller en Égypte, Amar Moshe, Moshe, il a dit un pasouk, Shlach Nabiati, je la renvoie, s'il te plaît, par le moyen et la main de celui que tu vas envoyer. De quoi il s'agit? Rashi dit qu'il a soulevé 2 points. D'abord, il a dit, Shola Rotelitok Doula la Ronachi, il voulait pas être supérieur à Aaron, plus qui, son frère. Shaya Gadol et Menou, parce que d'abord, son frère était plus âgé de 3 ans. En plus, il était déjà prophète. C'est pour ça qu'il dit « Shlach Nabiat Yishlach » envoie et libère le peuple juif par la main et la possibilité et le moyen de celui que tu as déjà l'habitude. Car Rashi nous a appris, un long Rashi, il y a dans Chumash, que Aaron avait déjà prophétisé plusieurs fois pendant qu'il était en Égypte, avant même que Moshe Rabbeinu est venu le voir. « Bet, biadach yachet yitzel yishlach » Deuxième commentaire de Rashi, par quelqu'un d'autre, que tu finiras par les libérer à la fin des temps. C'est Mashiach, de toute façon, c'est pas moi qui vais les faire entrer en Israël. Donc, pourquoi ne pas demander à celui qui est Malach HaMashiach et que ce soit lui qui libère déjà dès maintenant? Donc, dans ce verset qui est marqué dans le Chumash, Rashi dit que Moshe Rabbeinu est en train de dire 2 choses. Pas moi. Ou Aaron, plus âgé que moi, ou Mashiach. Sauf le Davar, et concrètement, en bas de la page, colonne de droite, Kibel Moshe Alasmo, il a accepté. Taché, Chodotim Israël. Colonne de gauche, Pierre Rashi, je dis, Mutne, Shecharabov, Kibel Allah, parce que Dieu, quelque part, était en colère, alors il a accepté. Abaloni page, Bakatou, Bema, Vech, Nishlat, Anat Moshe. Mais dans le verset, on ne sait pas en quoi il lui a répondu. Entre parenthèses, Rabbi Ramel, il y a un verset dans lequel il dit, tu sais, Aaron, ton frère, il va te voir, il sera content. D'accord? Ça veut dire que quoi? Aaron ne sera pas jaloux, Aaron ne sera pas en colère, il sera content de te voir, il sera content que c'est toi qui libères. Mais ça n'a pas répondu aux 2 points qu'il a dit. Pourquoi moi? Comme on verra plus tard, il dit, mais je ne suis pas important, mon frère est plus adulte, il était déjà sur place, il a déjà des prophéties. Il n'a pas eu de réponse. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Par Mashiach. Celui qui va le finir, c'est lui de commencer. Il n'a pas de réponse. C'est étonnant. Il argumente quelque chose et à la fin, il accepte. Tu peux dire, il a accepté Kabbalatol. À la fin, Dieu s'est mis en colère, il a été. Mais il n'a pas eu de réponse. Ou bien je peux dire, il a oui une réponse. Dans le Chumash, il n'y a pas de réponse. Alors, il a été avec une réponse ou sans réponse. Dans le verset, il n'y a pas de réponse. La reine est le farèche. Il y a eu une allusion de réponse. On est le dernier passage de la page 6. Nirmaz amane atanot abazé chez Siveva Kodesh Boch, où Dieu il a fait en sorte. Shalichal et Kimashoch sera par le Chamor. Et avec cette histoire de l'âne, il a oui eu une réponse aux 2 questions qu'il a posées. Ça veut dire que quelqu'un, il regarde Shlach Nabiat Yishlach, il voit la demande de Moshe, dans le Chumash, il n'y a pas de réponse. Rashi dit, dans le Chumash, il n'y a pas de réponse. Prends le pasuk Vayar qui va à la Chamor, et moi je vais te montrer que là-bas, il y a les 2 réponses. Où sont les 2 réponses? Page 7. Bakedat Yitzhak. Nitztava, Abraham Avinu a été ordonné, va le Sham Laola, monte-le en tant que holocauste sur la montagne. Ou Mekol Makom, Lohises, il n'a pas hésité, Abraham Avinu le regarde pour un instant pour faire la volonté de Dieu. Vadra, au contraire, Nizdar, il s'est précipité pour faire cette mitzvah. Jusqu'au point qu'il a lui-même attaché l'âne et pas un de ses serviteurs. Passage suivant. Misé mouvant de l'âne comprend, Bekosh, même qu'Avraham a plus forte raison, Benidon Didan. Bien que Moshe est en train d'accepter un poste de grandeur et qui pourrait peut-être déranger Aaron, quand même, Dieu lui dit, Erche Sachliot Kium Tsivuy Hashem, il faut faire la volonté de Dieu, Bemiluo, parfaitement, ou Besimcha, et avec joie, ou Belev Shalem, et avec un cœur entier. En fait, lorsqu'il lui a montré l'âne d'Abraham Avinu, Rashi, tiens, il y avait un message. Tout, chacun qui étudie l'histoire d'Abraham Avinu, c'est quoi le message qu'il prend? C'est qu'Abraham Avinu n'a pas hésité un instant. Mais Ashkem Abraham Baboker. Et après, Vayachavosh et Tramoro. Alors, il y avait plein de choses. Il y avait le voyage, il y avait tout ce qu'on veut. Mais, lorsqu'on apprend dans la Torah Vayachavosh et Tramoro, qu'est-ce qu'on apprend à ce sujet? Tout le chidouche, Vayachavosh et Tramoro, c'est que c'était lui, Vayachavosh et Tramoro. Il n'a pas dit un de ses serviteurs prépare l'âne. C'est lui-même qui l'a fait. Lorsqu'on a montré l'âne à Moshe Rabbeinu, on dit voilà, le voyage va se faire par cet âne-là, et on regarde l'âne, et on comprend que c'est l'âne d'Avraham Avinu, tout de suite ce qui ressort, c'est la simcha. Tout de suite ce qui ressort, c'est l'isarès de se précipiter et faire ce que Dieu demande, sans hésiter, sans réfléchir. Donc, lorsqu'il est venu, et il avait donc toutes ces questions, et dans ces questions, il a dit, mais Aaron il veut pas, il sera content, il sera pas content, il hésite pas. Quel est le message? Le message, il est qu'il faut avancer. Et le message, il est que lorsqu'il vient maintenant pour prendre une gdoula, donc il dit que peut-être il sera pas très content, toi, tu dois faire la volonté de Dieu sans hésitation. Donc il a une réponse par allusion sur la première question. Quelle était la deuxième question? Il a dit, mais c'est pas moi qui va les faire entrer en Israël. C'est pas moi qui va faire venir Moshiach à la fin. Demandons à celui qui va le faire. Qu'est-ce que Dieu lui répond? Cette âne-là, il finira aussi le trajet, comme on verra dans la Sikha, et Moshe Rabbeinu, il est encore une étape dans ce fameux voyage. Ça fait partie d'un grand voyage, dans les mots. C'est pas moi qui va les faire entrer, c'est pas moi qui va les libérer à la fin. C'est sur cette âne-là que va se révéler Mashiach. C'est pas deux geoulot séparés, mais la geoula, tu dis la geoula finale par Mashiach, c'est une suite à la geoula des tiens saints par Moshe. La geoula, tu dis la geoula finale par dépend de Kochoshel Moshe par la force de Moshe. En fait, il lui dit, oui, Moshiach, c'est pas toi. Mais Moshiach vient grâce à toi. Moshiach, il est la continuité et la finalité de ton travail, du don de la Torah, de la sortie d'Égypte. La Geoula finale, elle dépend de maintenant. Et voilà l'âne. C'est lui qui va faire le même âne avec, on verra dans la suite de la Sira. Ce sont des étapes différentes qui se sont reproduites à travers cette âne. Dans la note en bas, Rabbi fait référence à Sira, dans Chelek Yud Aleph. Là-bas, il dit que la valeur numérique de Moshiach, c'est la même valeur numérique que Moshe plus Echad. Echad, c'est Echad, tout le principe d'amener Echad dans le monde, amener Dieu dans le monde. Moshe Rabbeinu, avec la Torah, il fait révéler l'unité de Dieu dans le monde. C'est ça qui aboutira au résultat de l'avenue de Moshiach. Moshe Rabbeinu, c'est la valeur numérique 345 et Moshiach, c'est 358. Donc, lorsqu'on fait le travail de Matan Torah, et tout le travail que Moshe Rabbeinu nous a donné, et tout ce qu'on fait pendant toutes ces années, ça aboutira à Moshiach. Lorsqu'il est venu, il a dit, pourquoi tu me demandes à moi? Peut-être on pourrait proposer ça à Moshiach. Il dit, mais toi tu es le début, et lui c'est la fin, et c'est la même chose. Qu'est-ce qu'on a appris de là? Que le Rashi qu'on a appris, il a trois réponses. D'abord, il est venu expliquer, Hacha Morlehe. C'est quoi la particularité de cette âne? Après, il est venu, il dit, non, c'est plus profond que ça. C'est pas que donner la particularité de l'âne, mais c'est de répondre pourquoi il a pris un âne et pas un animal habituel, un chameau. On a répondu que c'est un âne qui a des qualités, etc. Après, c'est plus loin, mais pourquoi il est parti chercher cet âne? On a répondu, le secret de tout ça, c'est ça. C'est qu'en lui donnant cet âne, il lui répond aux deux questions. Pour la simcha, il faut avancer, même si on comprend pas toujours, même s'il y a des hésitations. La deuxième chose, c'est que lui, il dit, peut-être il faudrait faire venir Moshiach pour le faire. Et il dit, non, ce que tu fais toi, s'inscrit dans un long trajet. À partir de là, dans le Hot, He et Vav, Rabbi va s'arrêter sur beaucoup de questions sur le Rashi. beaucoup de détails sur ce Rashi, qu'avec ce qu'on a appris, maintenant, on comprend bien les mots que Rashi a choisis. Et chaque mot est très précis. Ok. Par exemple, on peut comprendre plusieurs choses dans Rashi. Il y en a l'Ef. Rashi a écrit Ruach Hamor Shechavash Avraham. Avraham, ça veut dire qu'Avraham a attaché. Sur la deuxième chose, il dit, il vient se révéler. Révéler, il parle de révélation. Il aurait dû dire, comme c'est marqué dans le Passouk, marqué que Mashiach, il va s'asseoir sur l'âne. Ani, il est un pauvre, Rochev, qui chevauche en âne. D'un coup, Rashi dit, les Igalot, il vient pour se révéler. En fait, c'est ça l'idée. Rashi tient que si on n'est pas en train de dire ce qui va se passer, Rashi tient que si on vient nous ramener les éléments clés du secret. Il aurait pu dire, c'est l'âne d'Abraham. C'est ça qu'il veut nous apprendre, Rashi? Non. Il veut nous dire, c'est les qualités, c'est l'âne d'Abraham? Non. Qu'est-ce qu'il veut dire? Regarde comment Abraham a été à la Akeda. Chavash, lui-même, il a attaché. Quand? Pour la Akeda d'Yitzhak. C'est ces deux points qui sont importants. C'est pas de parler de la qualité de l'âne et qui l'a utilisé. C'est quand ça a été utilisé, dans quel contexte et de quelle manière. Ça sera une réponse à Moshe Rabbeinu. Que devant des choses dans lesquelles on pourrait se poser des questions, il faut avancer dans la joie et dans la vitesse. Après, une autre chose. Si je suis là en train de parler de la qualité de cet âne sur lequel ma chère sera assis, il faudrait ramener le verset comme il est marqué. Rochev al-Achamo, il est assis sur l'âne. Mais ce n'est pas ça le but. Je ne suis pas là pour expliquer la qualité de l'âne qu'on a assis sur lui, ou qui va l'utiliser. Igalot, ça veut dire que c'est à travers cet âne que viendra la révélation finale de l'avenue de Mashiach. Donc le Rashi, Mamash, il soulève tous les mots qu'il faut pour expliquer comment est-ce que Dieu lui a répondu ici aux éléments les plus importants. La vitesse, la joie dans le service de Dieu, sans hésitation, on l'apprend non pas de l'âne, on l'apprend d'Abraham à nous attacher l'âne en vitesse tôt le matin et lui-même sans passer par quelqu'un. Voilà pourquoi Rashi a choisi le mot Chavash. C'est lui-même qui l'a fait. Et pourquoi Rashi met le mot que c'était au moment de la Keda d'Yitzhak. La même chose aussi, il ne dit pas il était assis, Moshe sera assis sur un âne. Il galote, il va se révéler. Parce que c'est très important ici de dire qu'ici on est dans une étape sur le chemin de la vie de Mashiach. On va soulever oralement le Od Vav. À ce stade-là, le rabbi dit que dans ce rachis, on a répondu à deux questions. C'est quoi les deux questions? L'hésitation. Peut-être Aaron, peut-être lui, peut-être non. Il y a encore une autre chose qu'il a soulevée. Pourquoi pas Moshiach? On a répondu aux deux. Dans le Od Vav, Rabbi dit, en vérité, on répond ici encore à un troisième argument que Moshe Rabbeinu l'a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Prenons le Od Vav. Od Yesh Lomar, c'est dans la page 8. Gam Zeshatil, Melach HaMashiach, Ligalot Alav. Ça, qu'on parle de Moshiach, Shayach, Gam Tanot HaReshona. Ça répond aussi à la toute première question. Chez nous, Rotselitol Gdoula, il ne veut pas une grandeur. Bemakom Aonachi, Vagadol Mimenu. Nous, on a dit que pour répondre au problème d'Aaron, comment on lui a répondu? En lui disant, regarde Abraham Avinu, pas d'hésitation, il ne comprend pas beaucoup pourquoi, et il avance dans la joie. Mashiach, ça répond à quelle question? Ça répond à la question numéro 2. Il avait dit non, c'est plus profond que ça. La réponse de l'âne de Mashiach, il répond aussi à la question numéro 1. C'est quoi sa question numéro 1? Pourquoi moi? Qui je suis moi pour être un grand? Aaron est plus grand. Qui je suis moi pour être un grand? Ah, qu'est-ce qu'on lui dit? Là-dessus, c'était quoi la réponse qu'on a dit là-dessus? Avance. Ma vie n'a pas posé de question, il a avancé toi aussi. Après, il a posé une deuxième question. Pourquoi pas Moshiach? Alors, je lui ai répondu, ce que tu fais est un début de Moshiach. Là, dans l'Od Vav, il dit qu'en vérité, par Moshiach, on nous répondait aussi sur la première question. Pourquoi? Passage suivant. Behegdem diuk lashon Rashi shetik makatuv aniv rochev al hamor. Deux lignes. Rashi il a ramené l'histoire où est-ce qu'on voit que Mashiach il est assis sur un âne. Il amène le pasuk. Ani, il est un pauvre, assis qui chevauche sur un âne. Le début du pasuk c'est quoi? Rashi n'a pas ramené. Qu'est-ce qu'il dit le début du pasuk? Il est cité dans la Sicha, un peu plus loin. Malkech yavolach tzadik venosha. Ton roi va venir, roi Mashiach, il est un tzadik. C'est lui qui va venir délivrer le peuple juif. Et on dit, c'est un pauvre assis sur un âne. Dans ce Rashi-là, qu'est-ce que je cherche? Parler de la grandeur de Mashiach. C'est quoi la grandeur de Mashiach? Un tzadik ou un pauvre? Un roi ou un pauvre? C'est quoi la grandeur de Mashiach? Un roi? Un tzadik? Le fait qu'il est pauvre, c'est pas une qualité d'être pauvre. Maintenant, est-ce que j'ai besoin, moi, de savoir qu'il est pauvre? Là, maintenant, dans ce verset? Non. La partie Rochev al Hamor, elle est importante. Qui sera assis sur l'âne. Qu'est-ce que Rachid a ramené? Ani. Le mot qui est pauvre. Oui, explique, il dit, ça, c'était une réponse qu'on a dit à Moshe Rabbeinu. Tu es en train de répéter qui je suis. Tu es en train de dire je suis rien. Qui je suis pour être grand. Il y a d'autres qui sont plus grands que moi. Alors on lui répond, mais c'est pour ça qu'on t'a choisi. On t'a choisi parce que tu penses que tu n'es pas grand. On t'a choisi parce que tu es anav, tu es humble. Et dans la réponse, ça c'est l'âne sur lequel sera assis qui? Un roi? Pas ça le sujet. Un tzadik? Pas ça le sujet. Un ani? Un pauvre? Pauvre? Ramène ici dans la sikha du Rashi. Pourquoi on a choisi un pauvre? Parce qu'il est un âne. Parce qu'il est humble. Et là-dedans, on a donc donné une réponse à Moshe Rabbeinu. Qui est en train de dire c'est pas moi, c'est pas moi? Et parce que tu dis que c'est pas toi, alors c'est pour ça que c'est toi. On va lire ce texte, le dernier passage du Hod Vav. C'est dans la page 8, la colonne de gauche. Basé Merumaz. Il y a ici donc une allusion à amener une réponse à Moshe Rabbeinu. Là, il voit que Togdoula voulait pas prendre une grandeur. Tan, il disait, Mianori, qui je suis, Mani, Khashoggi, en quoi je suis important. Tan, nous, cet argument, Moré, montre un avachelo. Le fait qu'il en a. L'adrabatav, que Zéou, Trachiot, était le Moshe, que Deliodraou, le Shlichuzou. C'est ça qu'il avait besoin pour être apte. Et c'est ça que Dieu lui dit, c'est ça que je cherche. Ici, on vient de conclure la première partie de la Sicha, dans laquelle on a vu un Rashi, qui va mal à Hamor, et il donne deux qualités, l'un d'Abraham, parle de la qualité de l'un de Moshiach. Et on n'a pas compris pourquoi est-ce qu'il n'a pas ramené la troisième qualité, pourquoi les qualités sont présentées de cette manière. Rabbi répond, il dit, d'abord, il est venu expliquer le mot Hachamor, l'âne connu. Ensuite, il dit que c'est venu expliquer pourquoi ça a pu être un âne et ça n'a pas été un chameau. Après, il a été plus loin, hein, ça répond à des questions que Moshe Rabbeinu l'a soulevées. Pourquoi pas Aaron? Faut avancer. Non, Simcha. Pas hésiter. Pas s'inquiéter. Pourquoi pas Moshiach? Parce que ce que tu fais est un début de la mine, Moshiach. C'est le même âne qui finira par la suite plus tard. Encore un point. Tu dis que tu mérites pas, que c'est pas toi, il y a des gens plus grands que toi, etc. Mais c'est pour ça que c'est toi. Parce que pour faire venir et avancer les choses, d'Afka, il faut être un âne. Ot Zain Chet, la deuxième partie de la Sicha, arrive à expliquer toute une autre dimension dans la Sicha. Là, pour l'instant, d'après ce qu'on a appris, on a simplement voulu nous répondre à ces questions. Il dit, pourquoi pas Moshiach? On a répondu, pourquoi pas lui? Alors c'est toi. Mais chacun comprend que c'est plus profond que ça. Quand même incroyable que le même âne qu'Avraham Avinu a utilisé, le même âne que Moshe Rabbeinu l'utilise, c'est le même âne que Moshiach va utiliser. Premier point. Deuxième point, si on regarde bien, ils ne sont pas utilisés de la même manière. Avraham Avinu, il a fait quoi avec? Il est monté dessus, il a mis sa famille dessus, il a mis des choses dessus.
Ouais,
il a mis des choses dessus. Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis sa famille. Et Moshe, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui-même monter. On voit déjà qu'il y a trois étapes. On va faire quelques passages en texte. Le reste, vous allez pouvoir faire Shabbat. Mais il explique dans cette sikha, le mot chamor vient du mot chomer, le côté matériel des choses. En fait, il y a ici trois étapes pour préparer le monde pour la venue de Mashiach. Ces trois étapes, c'est trois périodes. Pas d'Abraham, c'est étape 1. Pas de Moshe, c'est l'étape 2. Et Mashiach, c'est l'étape 3. Ça va se traduire aussi dans leur manière d'utiliser le chamor. Ça va se traduire aussi dans trois messages comment un juif élève la matière. Ça va se traduire aussi comment un juif, il y a trois manières comment il maîtrise son corps. La neshama, qui maîtrise le corps et l'âme animale. Et tout ça, ça se fait en trois étapes différentes. Là, on va comprendre que ce message-là et ce chamor-là, il raconte qu'on est maintenant rentré dans une deuxième étape. Le chamor qu'Abraham Avinu avait utilisé, dans lequel il s'était que pour certaines choses. Là, enfin, on avance, Matan Torah, la sortie d'Égypte. Et là, on reprend le chamor. Et là, non, là, on peut déjà mettre dessus la famille. Et tout ça, c'est une préparation pour la fin des temps. Donc, c'est lui-même, Moshiach, qui va s'asseoir dessus. Il va se révéler dessus. Dans les mots. Dans le passage Zayin, on va lire quelques lignes. Il aurait pu. Si Moshe serait monté, il serait monté s'il fallait monter. Biouraïnian. Mais le dernier passage de la page 8. Me voir be Mefarshim, on trouve dans les Mefarshim. Chamor Meramez ou Moré al Chomer, Agouf. Chamor fait allusion au côté matériel du corps, le chumriyut haolam. Fameux mot du Baal Shem Tov sur le verset, qui est tiré lorsque tu verras chamor sonacha, l'âne de ton ennemi, il dit lorsque tu regarderas bien ton corps, tu penseras et tu verras qu'il est peut-être ton ennemi, il te dérange dans le service de Dieu. Tu pourrais penser qu'il faudrait le briser, dit le Baal Shem Tov, que non, il faut le transformer, il faut l'élever. Page 9. Colonne de droite. Ah mais il explique c'est quoi les trois manières de gérer le corps et toutes les choses matérielles du monde. Aleph. Ikar avodato shel adam il egalot et or nishmato shehi behelem. Étape numéro 1, c'est de faire révéler l'anshama que le corps ne dérange pas. Ah, le corps il n'est pas élevé, mais qu'est-ce qu'on fait du corps? On le brise. On fait en sorte que l'anshama puisse briller. Comme il dit, machnia, et on brise l'aspect matériel du corps. Bête, le mal a misé plus haut, c'est quelqu'un qui a fait un travail sur son corps, dernière ligne de la page, shelo yirtzeh avot haolam, qui ne soit plus intéressé à l'aspect du monde. On voit ça dans Tania, c'est l'étape déjà avancée. Pas besoin de briser son corps, mais il a changé son caractère, changé ses envies, il a maîtrisé, et puis voilà. Ensuite, dans la colonne de gauche, il y a le petit bête, en plein milieu de la colonne. Zichuchaguf mitadatmo, quelqu'un qui a réussi à raffiner son corps. Haguf mitadatmo nefach lechefta shel kedusha. Le corps lui-même devient, comme si on peut dire, un objet spirituel et saint. Trois étapes. Ce serait même trois sortes de personnes. Un qui brise son corps. Un qui a changé son corps, mais le corps peut maintenant accepter la lumière de l'anshama. Et le troisième, son corps est devenu vraiment un outil kadosh. Dans la note 40, Rabbi ramène, on va citer oralement, qu'il y a trois manières pour un juif de servir Dieu, qu'on entend souvent. Un, c'est celui qui étudie, fait Torah mitzvot. Donc lui, son corps ne suit pas, mais il le brise, il fait, il faut étudier, il faut prier, il fait ce qu'il y a à faire. Le deuxième, c'est Kol Ma'asecha L'Hashem Shemaim, dans chaque chose qu'il fait, il voit comment à la finale, ça aboutit au service de Dieu. Et le troisième, c'est encore plus fort, B'chod Rachecha, dans chaque chose que tu fais, Da'e, où tu connais la grandeur de Dieu. Vraiment, chaque aspect de sa journée, elle est spirituelle. Voilà trois étapes. Le Hot Chet. Avant ça, il dit que c'est la même chose que c'est chez l'homme, dans sa manière de servir Dieu. C'est comme ça aussi dans le monde. Il y a eu trois étapes. Il y a une étape dans laquelle la sainteté, elle a besoin de briser l'aspect du monde. La deuxième, c'est qu'on a préparé le monde, qu'elle laisse venir la sainteté, qu'elle ne s'oppose plus. Et la troisième, c'est que le monde devient sacré. Qui a fait ces trois périodes? Abraham, Moshe, Moshiach. Otret. C'est la différence, on est dans la page 10. Entre les trois périodes, Abraham, Moshe, Moshiach, mais Abraham, la Torah n'a pas encore été donnée. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Peulat Abraham, la manière d'agir d'Abraham était le vatel, l'achnia, de briser le monde pour qu'il ne dérange pas la lumière de l'Akdoucha. N'est-ce pas? Ça, c'était la fonction d'Abraham. C'est pour ça que comment lui, il a agi avec l'âne? Chavash, il a attaché. Il a attaché, il a préparé. Quelque part, c'est lui qui force sur Chamor, sur l'aspect matériel du monde. Et même Moshe, après qu'on est passé en Égypte, on a déjà souffert, le corps a été déjà quelque part raffiné. Le monde est arrivé à un niveau, il est devenu un réceptacle pour devenir kadosh dès qu'un juif fait une mitzvah. Ça reste qu'il y a un écart toujours, il y a le monde matériel, il y a le corps d'un juif, mais il est déjà prêt à devenir un corps d'un juif. Les objets peuvent devenir sacrés, un étrog, il devient un étrog, une paire de tefilin, il devient un tefilin. Les choses matérielles peuvent devenir déjà maintenant un keli pour recevoir cette lumière. Et là, comment ça s'appelle en haut de la page, colonne de gauche, page 10? Maintenant, on peut déjà être assis sur l'âne. Ça veut dire qu'on n'est plus déjà en train de, quelque part, briser l'âne. On peut déjà utiliser l'âne. L'âne, il nous aide. Le côté matériel, il nous aide à évoluer dans le service de Dieu. Il dit, Lash azayadan beofan devaya kivem alachamor. Il y a encore un décalage. Quelque part, comme si c'est al. Al, ça veut dire, il y a l'âne, et il y a une spiritualité qui vient s'installer dessus. Lorsque Mashiach viendra, comment ça va se passer? Il dit, les igalot alav, il va venir se révéler sur l'âne. Il n'explique pas, il va venir se révéler sur l'âne. Un peu comme si on va dire à travers l'âne. À travers l'âne, ça veut dire grâce à l'âne. Grâce à l'âne, le côté matériel du monde va parler. Le côté matériel du monde va dire que Dieu existe. Donc, Abraham Avinu, il brise la matière. Moshe Rabbeinu, on est au-dessus de la matière, on peut le rendre prêt à recevoir la lumière de Dieu. Et Mashiach viendra, le monde matériel sera transformé. Rabbi conclut dans la Sifa et dit, c'est pour ça aussi qu'Abraham Avinu n'a mis là-bas que ses ustensiles, mais il y avait encore un écart entre lui et l'âne. Lorsque Moshe Rabbeinu a avancé, quelque part on raconte comment déjà sa famille est assise dessus. Et lorsque Mashiach vient, c'est lui-même qui est assis dessus. À partir de là, on comprend que tout est très médouillac dans la Torah. Chaque mot, chaque épisode, c'est pas juste comme ça des histoires. Chaque mot, comment c'est raconté, c'est important. Ce qu'on apprend de tout ça, c'est que, un juif, il a trois étapes. La première chose, c'est que là, il faut briser. Là où il y a besoin, c'est de rendre le monde un keli. Et le but, c'est de transformer le monde qui soit quelque chose de kadosh. Rabbi dans la Sifa, il ramène aussi au nom de Admo Azaken, qui dit que le but de tout ça, c'est rendre de ce monde une dira betachtonim. Donc, le titre de la sikha, comme on vient de dire, c'est qu'il y a eu un verset vayakivem al hachamor. Au début, on a étudié que c'était là pour dire la grandeur de hachamor, qui veut dire l'âne connu. C'est qui cet âne connu? Après, on a dit, mais c'était pour répondre pourquoi un âne et non pas un chameau. Et après, on a dit, non, ça répond aux fameuses questions que Moshe Rabbeinu a soulevées. On l'a répondu qu'il faut aller vite et pas se poser des questions, comme Abraham Avinu. Après, on lui a dit que il n'y a pas à s'inquiéter. Ce qui fait lui est un début de ce qui va se passer lorsque Mashiach viendra. Après, on a répondu, il dit, mais c'est pas moi, c'est l'un, c'est l'autre, et je suis pas capable, etc. Il dit, c'est pour ça qu'on te prend toi, parce que tu es humble. Ça, c'est ce qu'on appelle pshat. Après, plus profond, on voit qu'il y a un grand secret derrière tout ça. Le mot chamor, c'est le monde matériel. Le mot chamor, c'est le corps. Il y a trois étapes comment on avance. Un juif aussi peut avoir les trois étapes. Il y a un moment dans lequel il doit briser son corps lorsqu'il veut pas écouter. Après, il doit le transformer pour qu'il puisse recevoir la doucha. Après, le rendre quelque chose de kadosh. Aujourd'hui, c'est Chavdal et Tevet, l'Eloula de Admo Azaken. Le but de la Chassidut, c'était pour préparer le monde pour l'avenue de Mashiach. Et c'est ce qu'on voit que plus on avance, plus l'aspect des choses matérielles doivent être transformées. C'est ça qu'on trouve beaucoup l'importance sur la mitzvah de Tzedaka. Rappelez l'importance que nous avons que c'est Shabbat qui bénit le mois de Shvat. Shabbat qui bénit le mois de Shvat, dernière année, Tafshin Nubet, Rabbi l'a parlé, que ça fait appel tout de suite, c'est béni, le mois qui bénit le jour de l'Aïloula, donc de Rabbi précédent. Pour nous, c'est la Nissiout du Rabbi. Et l'idée, elle est que c'est le Dor HaShvi, c'est la septième génération. Le but de la septième génération, ben, c'était ça. C'est de faire descendre la Shrina ici-bas. Faire descendre la Shrina ici-bas ne veut pas dire faire descendre une lumière dans le monde, mais c'est de rendre le monde une demeure pour Dieu. Ça, c'est ce qu'on appelle Dira Bet Achtonim. C'est pour ça que ça, c'est toute cette Nekouda de la Sikha. C'est que ça ne suffit pas d'être revêche et tachamor. Ça ne suffit pas de juste s'asseoir sur l'âne. Il faut vraiment que l'âne parle. Il faut que l'aspect du monde matériel soit transformé en Gdusha. Tout ce que nous, on est en train de faire maintenant, fait que lorsque Mashiach viendra, on va voir que c'est sorti une révélation de tout ce travail qui a été fait.